Péroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 7 novembre 2017 au sommaire. Des milliers de Togolais de nouveau dans les rues de Lomé et à Sokodé alors que le pouvoir appelle au dialogue. En Guinée, ce sont les professionnels des médias qui étaient dans les rues pour dénoncer les violences contre les journalistes. Les États-Unis demandent au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections de décembre 2018. Et puis tournée de Donald Trump en Asie, la Corée du Sud va acheter des armes américaines pour faire face à la menace de Pyongyang. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Des milliers de Togolais ont défilé dans les rues de Lomé ce mardi sans incident, ce qui n'a pas été le cas à Bafilo et à Sokodé dans le centre du pays. L'appel a été moyennement suivi comparé aux manifestations précédentes. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kailos.
L'opposition togolaise a entamé ce mardi 7 novembre 3 jours de manifestations de rue. À la veille de ces manifestations, le gouvernement togolais a décidé entre autres la remise en liberté de 42 personnes condamnées dans le cadre des récentes manifestations dans le pays. Une mesure jugée insuffisante par la coalition des 14 partis de l'opposition. Nathaniel Olimpio, président du Parti des Togolais, membre de cette coalition.
Le gouvernement a posé un acte timide si la volonté est d'ouvrir le champ de la sérénité pour qu'on puisse parler tranquillement. Il est bon de libérer tous les prisonniers politiques.
Dans le communiqué du gouvernement, il est annoncé l'ouverture prochaine d'un dialogue politique. Ce manifestant fait son commentaire.
C'est du poudre aux yeux, parce que le gouvernement nous a beaucoup bluffé au Togo. Si les opposants veulent aller à la table de négociation, ils n'ont qu'à aller. Mais le peuple togolais est debout aujourd'hui pour réclamer la constitution de 92.
Les manifestations de l'opposition se poursuivent les 8 et 9 novembre. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée, des journalistes ont marché également ce matin dans Kaloum, le centre administratif et des affaires de Conakry. Ils entendaient dénoncer les abus de la haute autorité de la communication. Depuis quelques jours, la presse privée est frappée par des décisions de suspension, d'avertissement, mais aussi d'actes de violence de la part des forces de sécurité. Le point avec Zakaria Camara.
Marche de la colère, peut-on lire sur les pancartes. Ils sont quelques centaines de journalistes à vouloir s'exprimer contre les dérives de la haute autorité de la communication. Iboum Konté, responsable d'associations de presse.
La liberté de la presse qu'on a acquise depuis 2010 est dangereusement menacée par le fait d'être certains représentants du pouvoir public et par le laxisme manifeste de la haute autorité de la communication qui est censée être le bouclier pour les journalistes contre les prédateurs de la liberté de la presse.
Au bout de quelques minutes de marche, les journalistes se regroupent devant la haute autorité de la communication qu'ils accusent de dérive. Mais si les journalistes s'inquiètent, ils ne semblent pas se laisser faire. Mafoudia Bangoura, journaliste, alerte.
C'est une première en Guinée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes par avant, mais cette fois, on sent une pression phénoménale du côté des gouvernants pour si on veut bâillonner cette presse, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas permettre.
La radio Espace Guinée est suspendue pour diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État. Son patron a porté plainte contre la HAC devant la Cour suprême. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Les États-Unis demandent au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections annoncées pour décembre 2018. Dans un communiqué, le département d'État a également salué la publication du calendrier électoral par la CENI. Les États-Unis notent qu'il importe au président Kabila de respecter la constitution de la RDC telle que réaffirmée dans l'accord de la Saint-Sylvestre, de ne pas chercher à exercer un troisième mandat et de quitter le pouvoir après les élections, selon le communiqué. Au Cameroun, un gendarme a été tué hier dans une localité du nord-ouest anglophone lors d'une traque de séparatistes présumés. C'est une nouvelle escalade dans la crise qui secoue les régions anglophones. Le point avec Anastasie Toudiech.
C'est la première fois qu'un gendarme est abattu depuis le début de la contestation anglophone en novembre 2016. Des individus suspectés d'être des séparatistes ont abattu un gendarme hier à Jakiri, dans le nord-ouest. Des hommes cagoulés avaient attaqué le lycée de cette localité, s'en prenant aux élèves et aux enseignants. Les forces de l'ordre ont essayé de les traquer, mais l'un des gendarmes a été encerclé dans une forêt avant d'être tué. Depuis l'étranger, les leaders sécessionnistes avaient appelé les populations à former des groupes d'autodéfense pour combattre ce qu'ils qualifient de forces d'occupation. Yaoundé a déployé des milliers de soldats dans ces deux régions anglophones sur les 10 que compte le pays. S'estimant marginalisés, des anglophones ont tenté le 1er octobre de proclamer une indépendance symbolique. Au moins 14 personnes ont été tuées dans les violences, mais des ONG locales évoquent un bilan beaucoup plus lourd.
Au moins 2 femmes et 1 soldat ont été tués dans une attaque menée dans le nord-est du Nigeria par des dizaines d'hommes du groupe Boko Haram. L'attaque qui a eu lieu hier dans la soirée dans l'état de l'Adamawa a finalement été repoussée par l'armée. Elle a été menée par une cinquantaine d'éléments présumés de Boko Haram. Un ancien dirigeant du gouvernement local affirme que les assaillants ont perdu beaucoup d'éléments durant les accrochages. En Mauritanie, ouverture demain à Ouagadougou dans le nord du nouveau procès en appel d'un blogueur dont la condamnation à mort pour blasphème a été cassée par la Cour suprême. Le prévenu Mohamed Cheikh Ould Mahameda a été arrêté en janvier 2014 pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. À la veille de ce nouveau procès, les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, ont une fois de plus appelé à la cassation définitive de sa condamnation et à l'abandon des poursuites. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé à quelques mois de la présidentielle de 2018 qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat en 2022. Dans une interview diffusée sur la chaîne américaine CNBC, il a affirmé qu'il ne souhaitait pas une modification de la Constitution et ne veut pas rester un jour de plus président contre la volonté des Égyptiens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Corée du Sud, deuxième étape de sa tournée asiatique, le président américain Donald Trump a affirmé que Pyongyang est une menace mondiale qui implique une réponse mondiale. Yakuba Wetraogo.
Le président Donald Trump a réaffirmé qu'il est prêt à utiliser la puissance de l'armée américaine pour empêcher la Corée du Nord d'atteindre ses objectifs nucléaires et balistiques. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Toutefois, M. Trump s'est montré conciliant, se disant ouvert à des négociations avec la Corée du Nord. Il a annoncé que Séoul va acheter des armements américains pour des milliards de dollars. M. Moon a confirmé des pourparlers pour acheter des équipements stratégiques. Séoul exige que toute intervention contre Pyongyang se fasse avec son consentement préalable. Au final, on trouvera une solution au problème nord-coréen, a promis Donald Trump aux 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Après Séoul, le président Trump se rendra à Pékin. En Chine aussi, la Corée du Nord sera au menu des échanges.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, accuse le régime iranien de mépriser ses obligations internationales après le tir par les rebelles yéménites Houthis d'un missile en Arabie Saoudite. Téhéran est soupçonné d'avoir fourni le missile en question. La diplomate américaine estime que par ce comportement, le corps des gardiens de la révolution islamique viole simultanément 2 résolutions de l'ONU. De son côté, l'Iran a rejeté les affirmations du prince héritier d'Arabie Saoudite, accusant Téhéran d'agression militaire directe. Les rebelles chiites et yéménites menacent de frapper les ports, aéroports, postes frontaliers et installations vitales de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, en riposte au renforcement du blocus imposé au Yémen. Dans un communiqué, le Conseil politique suprême des rebelles a dénoncé le renforcement du blocus sur le Yémen décidé par la coalition arabe à la suite de l'interception samedi d'un missile tiré sur Riyad par les rebelles. Les forces américaines en Afghanistan disent n'avoir pas trouvé de preuves de victimes civiles après un bombardement aérien la semaine dernière dans la région de Kunduz, au nord du pays. Le gouverneur de la province avait fait état d'au moins 1 civil tué et 6 blessés. D'autres sources locales ont avancé des bilans encore plus élevés, d'au moins 13 civils tués. En Afghanistan, toujours des hommes déguisés en policiers ont attaqué le siège d'une chaîne de télévision à Kaboul, tuant une personne. L'attaque, qui a été revendiquée par le groupe État islamique, a duré environ 3 heures avant que les forces de sécurité afghanes, lourdement armées, n'y mettent un terme et ne libèrent les employés de la chaîne. Et puis, l'un des plus célèbres théâtres berlinois annule sa participation au Festival de théâtre d'Istanbul, une décision qui fait suite à l'arrestation de plusieurs ressortissants allemands en Turquie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Blanche Sanouf qui nous présente la Minute Éco.
Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures a généré 166 milliards de francs CFA de recettes pétrolières. Cet argent relève de la vente du gaz et du pétrole au cours du premier semestre de l'année, selon les données de cette entreprise. Au cours de la même période, la production pétrolière a atteint 14,5 millions de barils, tandis que la production du gaz est plus de 6 900 millions de pieds cubes. Ces recettes pourraient augmenter au cours du second trimestre en raison de la hausse de la production. Le Burkina Faso vient de bénéficier de 39,7 milliards de la Banque Ouest Africaine de Développement pour la construction de barrages, de routes et un accès à l'énergie. Cet appui a été officialisé par le président de la BOAD, Christian Adovlende, lors de son séjour à Ouagadougou. À ce jour, le montant total mobilisé par la BOAD au profit du Burkina Faso est évalué à 476 milliards de francs CFA pour 142 opérations. En Angola, la province des Zaïre pourrait perdre 400 000 tonnes de manioc en raison de la maladie de la mosaïque. Gouveia Pedro, directeur provincial de l'agriculture, indique que l'épidémie sévit dans les municipalités de Tomboko, Zeto et Banza, Congo. Dans la lutte contre cette maladie qui attaque le manioc, il précise qu'une équipe d'experts a été désignée pour enrayer la propagation et qu'un million de boutures présentant une forte résistance au virus seront distribuées afin de sauver la saison agricole.
Et à présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la Coupe du Monde 2018. La pression monte à Abidjan.
Où la Côte d'Ivoire accueille samedi au stade Félix Houphouët-Boigny le Maroc en tête du groupe C. L'enjeu est simple pour les Ivoiriens, il faut impérativement l'emporter pour repasser devant les Lions de l'Atlas et espérer aller en Russie pour disputer une quatrième Coupe du Monde d'affilée. Les Marocains arriveront sur place demain avec à leur tête le sélectionneur Hervé Renard qui espère bien crucifier les espoirs de son ancienne équipe. Écoutons Marc Wilmots, le sélectionneur des Ivoiriens, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui. Il se dit serein.
Au moins maintenant, on sait ce qu'on doit faire, on doit le gagner, on ne doit pas calculer. Et moi, je suis content de ne pas calculer. Parce que ça, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Mais la pression, évidemment, elle est sur les deux, puisque les deux pays peuvent se qualifier. Donc la peur, chez nous, elle n'existe pas. On est à la maison. On respecte. Ça, c'est différent. On a besoin d'une équipe qui va aller au combat. Et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200%. Et de donner tout pour son pays et sa nation. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde.
Marc Wilmots, le sélectionneur des Ivoiriens.
Le Sénégal est déjà en Afrique du Sud.
Les Lions de la Teranga ont quitté Paris cette nuit pour rejoindre Polokwane où ils affronteront les Bafana Bafana vendredi. Enjeu pour le Sénégal, remporter l'un des deux matchs de la double confrontation avec l'Afrique du Sud pour se qualifier pour le Mondial 2018. Sadio Mané, de retour de blessure avec Liverpool le week-end dernier et du voyage, mais il devrait être ménagé par Aliou Cissé en cas de qualification.
Le Namibien Frédéric suspendu par le Comité international olympique.
Le CIO annonce la suspension de son membre, Frankie Fredericks, mis en examen pour corruption passive et blanchiment de corruption par la justice française. C'était la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur l'attribution des Jeux olympiques d'été à Rio en 2016.
Dopage, cette fois au Kenya.
La Kenyane Jemina Sumgang, première championne olympique du marathon de l'histoire de son pays en 2016 à Rio, a été condamnée à 4 ans de suspension pour un contrôle positif à l'EPO, c'est ce qu'annonce la Fédération Kenyane d'athlétisme. On rappelle que Sumgang avait déjà été suspendue en 2012 pour 2 ans, une sanction qui avait été ramenée en appel à 1 an.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Kyrie Irving a dépassé la barre des 30 points pour la première fois depuis son arrivée à Boston cet été pour conduire les Celtics à leur 9e victoire consécutive à Atlanta, 110 à 107. Par ailleurs, Golden State a enchaîné un 4e succès en battant Miami 97 à 80.
Merci Nicolas.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Dimanche, la commission électorale congolaise a annoncé que l'élection présidentielle tant attendue se tiendra le 23 décembre 2018. L'opposition et des mouvements citoyens rejettent ce calendrier électoral, souhaitant une transition sans Kabila à partir du 31 décembre de cette année. Au sein de la population, cette nouvelle date est pour certains un signe d'espoir, mais d'autres sont lassés des différents reports. Pour analyse, Ekiabadou a joint l'activiste maître Roméo Matarigna à Goma.
En tant qu'observateur de la politique en République démocratique du Congo, nous avons, je pense, et en ce qui me concerne, que la date qui a été donnée est présentée. C'est d'abord pour moi un temps, parce que nous avons toujours cherché cette date, elle ne venait pas. Et que donc le calendrier qui a été présenté, pour moi c'est un temps, un grand pas. Et j'estime que Nanga, qui a donné cela, il pourra le respecter, parce que c'est ce que nous attendons. Le peuple congolais, certains sans doute, estiment qu'encore on va changer la date ainsi de suite. Que moi, j'estime que si on changeait, c'est ce qui est mal. Mais c'est cette date d'abord, parce qu'on cherchait la date elle-même, elle ne venait pas. Que donc, jusqu'à la preuve du contraire, je pense que les élections auront bien lieu. Nous sommes en marche. Donc on est en marche, même si ça n'a pas respecté les accords de Saint-Sylvestre, ça n'a pas respecté les accords de... Les compromis qui ont eu lieu, ça et là. Et que donc, comme le calendrier est là, et que si une fois le calendrier est respecté, ça va réjouir le peuple congolais.
Alors, le calendrier est là, c'est un grand pas, effectivement, comme vous pouvez le dire, mais d'un point de vue technique, est-ce que vous pensez que le recensement sera déjà fait? Il y a assez de temps pour le faire. Est-ce que vous pensez que le matériel sera acheminé? D'un point de vue technique, cela vous semble-t-il possible?
C'est ça, effectivement, cela a été relevé dans les contraintes qui ont été présentées. Nous avons plusieurs défis à relever. Et c'est ce qui, il faut croire que c'est encore une blague. Voilà, nous avons le problème d'insécurité. Ça est là, et partout. Tout le monde le connaît très bien. Nous savons que notre pays traverse un moment très difficile. Il n'y a pas d'argent, en fait, dans ce pays. Et il y a même... C'est à peine qu'on paye le personnel, le fonctionnaire. Les nombreux ne sont pas payés. Il y a des mois et des mois. Vous comprenez que c'est un problème technique. Et tout ça entre dans le cadre des problèmes techniques. Nous savons l'acheminement. Mais aujourd'hui, on peut commander le matériel. Et le matériel peut ou ne pas être prêt ce jour-là. Et il faut encore qu'il y ait l'argent pour commander ce matériel. Tout ça, ce sont des problèmes.
C'était maître Roméo Matarigna, joint à Goma.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Des ONG congolaises réclament à Brazzaville la libération de personnalités détenues depuis les dernières élections. Ces organisations sensibilisent sur leur cas auprès des populations. Mais dans la capitale congolaise, les autorités refusent toujours l'idée de prisonniers politiques. Reportage à Brazzaville, Nguel Angoussou.
Les organisations de la société civile ont choisi une stratégie simple, afficher le plus le portrait des acteurs politiques détenus en prison dans le but d'attirer l'attention du public sur cette situation. Ainsi, chaque vendredi, Arnaud Sobeleka, un activiste des droits de l'homme, repère un quartier dans la ville pour afficher les portraits.
Aujourd'hui, c'était M. Martin Mandemana, qui a été incarcéré depuis mai 2016. Donc à ce jour, il croupit encore dans un lieu de détention. Aujourd'hui, nous avons travaillé au niveau de Bayardel, à l'université Marengwabi, à la morgue, dans les lieux où les gens peuvent facilement lire.
Jean-Marie Michel Mokoko, Jacques Bananganzala, André Okombi Salissa, Paulin Makaya, Marcel Mpika ou Gis Fortuné Ndombembemba, et la liste est loin d'être exhaustive, sont considérés par des ONG comme des prisonniers politiques. Ces personnalités sont arrêtées à cause de leur opinion politique, affirme Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
L'objectif, c'est d'arracher la liberté de ces personnes que nous qualifions de prisonniers politiques, parce que ces personnes sont aujourd'hui victimes de leur engagement, victimes de leur choix politique qui n'est pas du goût pouvoir en place. Dans cette campagne d'affichage, nous déployons sur le terrain pour demander aux Congolais de se souvenir qu'il y a des prisonniers politiques dans notre pays et il y a un retour positif du côté des Congolais, mais il y a aussi des réactions virulentes des autorités en place. Mais cela ne peut pas nous décourager, bien au contraire, ça réconforte notre action.
Dans les grands carrefours de la capitale, on trouve des affiches appuyées du message « On ne vous oublie pas ». Le thème de cette campagne qui va durer jusqu'en mars 2018. Selon Charlène Kinoani, vice-coordonnateur du mouvement citoyen Le Ras-le-bol Congolais, le général Mokoko avait suscité l'espoir de la jeunesse congolaise. C'est ce qui explique l'implication de son mouvement dans cette campagne.
Le général Mokoko était un espoir pour la jeunesse congolaise parce que vous avez vu la masse qui était derrière lui. Les Congolais, les jeunes, comment s'étaient mobilisés dans la Bouenza, dans le Niari, dans le Nord. Donc je pense que ce monsieur a été incarcéré simplement parce qu'il a fait valoir ses droits, il a fait valoir son engagement.
Mais le débat reste vif à Brazzaville sur le thème de prisonniers politiques. Les autorités continuent d'affirmer qu'il n'y a aucun prisonnier d'opinion au Congo et que tous ceux qui sont arrêtés étaient des auteurs d'infractions du droit commun. La société civile, elle, persiste qu'il y a bel et bien dans les cellules congolaises des prisonniers politiques. Bien que leur nombre total ne soit pas connu, seul Paulin Makaya a pu être jugé en 2016. Il purge actuellement une peine d'une année d'emprisonnement et devait être libéré dans quelques semaines. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin, également diffusé sur Facebook à 19h, temps universel. La jeunesse et les femmes dans la crise au Togo. Quelles sont les attentes des uns et des autres? Nous en parlerons avec Victor Adoukonou, président de la diaspora togolaise aux États-Unis. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h temps universel sur VOA Afrique. A tout à l'heure.
Au Zimbabwe, un autre vice-président passe à la trappe, considéré comme un puissant successeur du président. Potentiel successeur du président Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa subit le même sort que son prédécesseur Joyce Mujuru, qui a été licencié de la même manière en 2014. Plus de détails dans ce reportage du service Zimbabwe rendu par John Lindon.
Robert Mugabe a limogé lundi son vice-président Emmerson Mnangagwa. Il est accusé depuis longtemps d'être impliqué dans des actes de division. C'est le ministre de l'Information, Simon Kaya Moyo, qui l'a officiellement annoncé.
His Excellency the President.
Son Excellence, le président Robert Mugabe, a usé de ses pouvoirs pour relever l'honorable Emmerson Mnangagwa de ses fonctions de vice-président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat.
Kaya Moyo a aussi évoqué des raisons liées à la loyauté, au manque de respect et à la duperie parmi les raisons du limogeage de Mnangagwa. Jusqu'à récemment, il était considéré comme un des principaux candidats à la succession du président Robert Mugabe. Son remaniement ressemble étrangement à celui de son prédécesseur Joyce Mujuru, accusé elle aussi de corruption ou de complot pour renverser le gouvernement avant d'être publiquement appelé à démissionner après des bagarres verbales épiques avec la première dame, Grace Mugabe. S'adressant aux jeunes de son parti à Bulawayo, le président Mugabe s'est demandé avec colère s'il avait fait une erreur en nommant Mnangagwa comme vice-président. Il a ajouté qu'il le laisserait tomber si c'est le cas. C'est à ce même rassemblement que Mme Mugabe a fait monter la pression sur M. Mnangagwa, l'accusant d'organiser des gens pour la huer et de l'étiqueter comme un liquidateur qui vise le siège de son mari. Depuis l'indépendance.
En 1991,
1980, Mnangagwa a essayé de renverser le président par un coup d'État. Je parle de ma position précédente, j'ai des preuves. Il a essayé de renverser le président, il a pris le président pour acquis depuis trop longtemps. Le président est un homme très patient.
Beaucoup ont anticipé que la mise à l'écart de Mnangagwa se ferait au congrès du parti convoqué à la hâte pour décembre, mais la nouvelle de son renvoi a surpris tout le monde. Les experts constitutionnels laissent entendre que cette décision est légale, car les vice-présidents du Zimbabwe sont nommés par le président et ne sont pas élus comme des colistiers. Pour l'analyste politique Sifa Mandela Zondi, ce limogeage peut avoir un effet boomerang sur le parti.
La nomination de Grace Mugabe pourrait unir les forces qui militent contre le courant actuel, le G40 par exemple. Et cela pourrait unir Mnangagwa avec Joyce Mujuru, Keith Mutavangwa, les vétérans de guerre et toutes les forces qui influencent depuis longtemps la ZANU-PF. Maintenant, il existera une ZANU-PF de l'extérieur qui va défier les ZANU-PF au pouvoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vendredi dernier, un navire de l'opération Sophia contre le trafic de migrants en Méditerranée a sauvé 64 personnes d'un canot pneumatique, mais a aussi fait une découverte macabre, les corps de 23 jeunes femmes nigérianes décédées, âgées de 14 à 18 ans. Face à cette découverte, les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête pour clarifier les circonstances de ces décès. Pour plus de détails, Claire Morin-Jubourg a joint l'un des porte-parole de l'OIM, Leonard Doyle.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont trouvé un petit bateau et là-dedans, il y a les corps de 26 femmes nigériennes, probablement des personnes qui ont été dans les mains des passeurs humains. Alors, c'est une tragédie énorme parce que ce sont des très jeunes filles, effectivement, qui étaient déjà captées par leurs passeurs et qui sont maintenant mortes. Les corps étaient dans le bateau et le bateau était presque plein de l'eau. Ils ont trouvé vivantes les autres. Ils ont trouvé 34 corps. Il y a toujours 50 qui sont disparus sur mer. Alors, c'est une vraie tragédie. Et les gens, il y a là-dedans un homme de 89 ans. Il y a une autre fille nigérienne qui était enceinte et on a déjà un bébé sur un navire espagnol. Mais la grande tragédie, c'est qu'on a ces filles qui étaient effectivement pris par des passeurs, des trafiquants, qui sont maintenant morts.
Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles ont subi des violences sexuelles?
C'est pas exactement ça, mais c'est évident qu'ils, dans de certaines parties de la Nigeria, ils prennent des filles, ils promettent des boulots en Europe, mais ils sont effectivement des esclaves modernes. Et maintenant, vous avez 26 qui sont morts, qui ont été trafiqués.
Est-ce que vous avez les premières conclusions? Comment elles sont mortes?
Ils sont morts, ils sont noyés en mer. Il y a beaucoup de l'eau dans les bateaux ne sont pas saufs. Certains-uns ont été violés sur mer. Il y a des autres, une autre fille qui a perdu ses enfants qui sont en mer. C'est vraiment une tragédie humaine énorme.
Avez-vous une idée de l'amplitude du trafic humain, du trafic de ces jeunes filles sur le continent africain et en Méditerranée aujourd'hui?
Alors, c'est une crime cachée. C'est très difficile de vous donner des chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est que un entre chaque 7 personnes qui passent à travers la Méditerranée montre des signes d'être une victime de trafic humain. On n'a pas un numéro global parce que c'est comme le business de drogue. C'est un truc illégal. On fait des estimations, mais on ne sait pas.
C'était Leonard Doyle, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition mise en onde par Sims Lumami à la console Bill Barber, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.